Aristote, Traité de la sensation et des choses sensibles, traduction Jules Barthélemy Saint-Hilaire, chapitre 5. Sommaire. Complément de la théorie de l'odeur. Rapport des odeurs aux saveurs. Odeur des différents corps. Réfutation d'une opinion d'Héraclite sur la nature de l'odeur. L'odeur est une modification de l'humidité de l'air et de l'eau causée par la sécheresse sapide. Deux espèces principales d'odeur, comme il y a aussi deux espèces principales de saveur, les unes sont bonnes ou mauvaises indirectement, les autres le sont par elles-mêmes. L'homme est le seul animal qui est la perception de cette seconde espèce d'odeur, action des odeurs sur le cerveau. Organisation spéciale des poissons et des insectes pour la perception des odeurs. L'odorat tient à peu près le milieu entre les cinq sens, le toucher et le goût d'une part, la vue et l'ouïe de l'autre. Réfutation d'une opinion des pythagoriciens qui soutiennent que certains animaux se nourrissent d'odeurs. L'odeur peut contribuer à la santé, mais non à l'alimentation. Paragraphe 1. C'est en suivant encore la même marche qu'il faut traiter des odeurs, parce que l'effet que le sec produit dans l'humide, l'humide sapide le produit également en un autre genre, dans l'air, et dans l'eau. Ici, aussi, pour les odeurs, nous rappelons que le diaphane est commun à ces deux éléments. Mais le diaphane est odorable, non pas en tant qu'il est diaphane, mais en tant qu'il peut transmettre et retenir la sécheresse sapide. Paragraphe 2. En effet, l'odoration a lieu non pas seulement dans l'air, mais encore dans l'eau. C'est ce qu'on peut voir bien évidemment par les poissons et par les animaux à écailles. Certainement, ils perçoivent les odeurs, bien qu'il n'y ait pas d'air dans l'eau, l'air, quand il y en a dans l'eau, remontant à la surface. Et que, de plus, ces animaux ne respirent point. Si donc l'on admet que l'eau et l'air sont tous deux humides, la nature du sec sapide dans l'humide sera précisément l'odeur, et le corps, qui aura ces qualités, sera un corps odorant. Paragraphe 3. Que toute cette modification des corps vienne de leur sapidité, c'est ce dont on peut facilement se convaincre en observant les choses qui ont de l'odeur et celles qui n'en ont pas. Ainsi, les éléments, c'est-à-dire le feu, l'air, l'eau, la terre, sont sans odeur parce que leurs parties sèches et leurs parties humides sont privées de saveur, à moins que quelque chose d'étranger ne s'y mêle et ne leur en donne. Voilà aussi pourquoi la mer a de l'odeur, car elle a de la saveur et de la sécheresse. Et le sel est plus odorant que le nitre, comme le prouve bien l'huile qu'on tire de tous deux en les desséchant. Mais le nitre est plutôt de la terre. La pierre est aussi sans odeur, insipide. Mais les bois sont odorants parce qu'ils ont une saveur. Et ceux qui sont aqueux en ont moins que les autres. Parmi les métaux, l'or est sans odeur parce qu'il est sans saveur, mais l'airain et le fer sont odorants. Quand l'humide des métaux a été calciné par le feu, les scories ont toujours moins d'odeur. L'argent et le plomb sont plus ou moins odorants que quelques autres métaux parce qu'ils sont aqueux. Paragraphe 4. Quelques naturalistes pensent que l'exhalaison fumeuse qui est commune à la fois à l'air et à la terre, est l'odeur. Et tous ceux qui ont traité de l'odeur se jettent dans cette explication. Aussi, Héraclite a-t-il dit que si tout venait à se réduire en fumée, ce serait l'aîné qui connaîtrait toutes choses. Dans ce système, que tout s'applique à l'odeur, on la considère tantôt comme une vapeur, tantôt comme une exhalaison, parfois aussi comme l'un et l'autre à la fois. Or, la vapeur est une sorte d'humidité, et l'exhalaison fumeuse est bien, comme on l'a dit, commune à la terre et à l'air. Et c'est de celle-là que l'eau se compose, comme de celle-ci se forme une espèce de terre. Mais l'odeur ne paraît être ni l'un ni l'autre, car la vapeur est bien de l'eau. Et il est impossible que l'exhalaison fumeuse se produise jamais dans de l'eau. Or, les êtres qui vivent dans l'eau ont la perception de l'odeur, comme on vient de le dire. De plus, dans ce système, l'exhalaison ressemble beaucoup aux émanations, et si cette hypothèse n'est pas admissible pour la vue, elle ne l'est pas non plus pour l'odeur. Paragraphe 5. Il est donc clair que l'humide, tant celui qui est dans l'air que celui qui est dans l'eau, peut recevoir et souffrir quelques modifications de la part de la sécheresse sapide, car l'air est humide par sa nature. Paragraphe 6. Il est tout aussi clair que si le sec, qui est comme filtré dans les liquides, agit également dans l'air, il faut que les odeurs soient analogues aux saveurs. Et cette ressemblance est réelle, en effet, à certains égards. Par exemple, les odeurs sont âpres et douces, rudes et fortes, grasses même. Et l'on pourrait dire que les odeurs fétides correspondent aux saveurs âcres. Aussi de même qu'on ne peut boire les saveurs de ce genre, de même, on ne peut respirer les odeurs fétides. Il est donc évident que ce que la saveur est dans l'eau, l'odeur l'est dans l'air et dans l'eau tout à la fois, et que c'est ce qui fait que le froid et la congélation, qui émoussent les saveurs, annulent aussi les odeurs. Car le refroidissement et la congélation font disparaître la chaleur qui met en mouvement et élabore les unes et les autres. Paragraphe 7. Il y a deux espèces principales d'odeurs, car on a tort de soutenir que les odeurs n'ont pas d'espèces, comme quelques-uns le disent. Il est certain qu'elles en ont. Nous montrerons ici comment cela est et jusqu'à quel point cela n'est pas. D'abord, on a pu essayer de les classer comme les saveurs, ainsi que nous l'avons dit. Et alors, c'est indirectement qu'elles sont agréables et désagréables. En effet, comme les saveurs sont des affections de la faculté nutritive, les odeurs des aliments sont agréables à l'animal quand il désire sa nourriture, mais elles cessent de lui plaire quand il s'est repu et qu'il n'a plus besoin de rien. La nourriture même, qui exhale ses odeurs, ne lui plaît pas alors davantage. Ainsi donc, nous pouvons le redire, ces odeurs ne sont agréables et pénibles qu'indirectement et par accident. Et voilà aussi pourquoi celles-là sont perçues indistinctement par tous les animaux. Mais il y en a d'autres qui sont agréables par elles-mêmes, comme celle des fleurs. Celles-là n'excitent ni plus ni moins l'animal à prendre ses aliments. Elle ne contribue en rien à provoquer son appétit. Elle ferait plutôt le contraire, car le mot de Stratès se moquant d'Euripide est très juste. Quand vous faites cuire de l'oignon, n'y versez pas de l'ambre. Et ceux qui aujourd'hui mettent ainsi des aromates dans leur boisson forcent le plaisir, par l'habitude même, jusqu'à ce que, des deux sensations diverses qu'ils reçoivent, ils se forment comme une seule impression agréable, et que le plaisir leur vienne une sensation unique. Paragraphe 8. Ainsi, la perception de cette espèce d'odeur est propre à l'homme. Quant à la perception des odeurs qui tiennent aux saveurs, elle appartient aussi aux autres animaux, comme on vient de le dire. Et c'est parce que ces odeurs ne sont agréables que par accident qu'on a pu classer leurs espèces selon les saveurs mêmes. Mais on ne peut classer ainsi les autres parce que leur nature est par elle-même ou agréable ou pénible. Ce qui fait que cette odoration est spéciale à l'homme, c'est la frigidité même qui règne autour de son cerveau. En effet, comme le cerveau est froid naturellement, comme le sang des veines qui l'environnent est léger et très pur, mais facile à se refroidir, et que par suite l'évaporation de la nourriture en se refroidissant dans ses parties produit des fluxions morbides, cette espèce particulière d'odeur a été donnée à l'homme comme un moyen puissant de santé. Elle n'a pas certainement un autre objet que celui-là, et bien évidemment, elle remplit cette fonction. Paragraphe 9. Ce qui le prouve, c'est que souvent la nourriture, tout agréable qu'elle est, soit sèche, soit liquide, est dangereuse. Mais celle qui plaît, parce qu'elle exhale une odeur bonne en soi-même, quelle que puisse être d'ailleurs la disposition de l'individu, celle-là, on peut dire, lui est toujours favorable. Paragraphe 10. Voilà pourquoi c'est par la respiration que l'odeur est perceptible, non pas à tous les animaux, il est vrai, mais aux hommes. Et parmi les animaux qui ont du sang, aux quadrupèdes, et à tous ceux en général, qui par leur organisation sont davantage en rapport avec l'air. Les odeurs étant portées vers le cerveau par la légèreté même de la chaleur qu'elles contiennent, les parties qui environnent cet organe en sont plus saines. C'est que la puissance de l'odeur est naturellement chaude et que la nature emploie la respiration à deux fins, directement à la fonction qu'accomplit la poitrine et indirectement et par surcroît à celle de l'odorat. En effet, quand on respire, on produit, comme en passant, le mouvement qui a lieu par les narines. Paragraphe 11. Mais ce mode particulier d'odoration appartient spécialement à l'organisation de l'homme, parce que, relativement à sa grandeur, il a le cerveau plus humide et plus gros que le reste des animaux. Aussi, l'homme est pour ainsi dire le seul des animaux qui sentent et qui goûtent avec plaisir l'odeur des fleurs et toutes les autres odeurs analogues, car la chaleur et le mouvement de ces odeurs sont en rapport avec l'excès d'humidité et de fraîcheur qui est dans le cerveau humain. Paragraphe 12. Quant à tous les autres animaux qui ont des poumons parce qu'ils respirent, la nature ne leur a donné que la sensation de l'autre espèce d'odeur afin de ne pas faire deux organes. Et il leur suffit, quoiqu'ils respirent les deux espèces d'odeurs, comme les hommes, d'avoir uniquement la perception de l'une des deux. Paragraphe 13. Il est du reste évident que les animaux mêmes, qui ne respirent pas, ont aussi la sensation de l'odeur. Ainsi, les poissons et toute la race des insectes sentent de loin et fort bien la nourriture spéciale qui leur convient, à quelque distance qu'ils en soient, à cause des qualités nutritives de l'odeur. C'est ce que font les abeilles pour leur miel. Et cette espèce de petite fourmi qu'on appelle knip, en quelques lieux, et les rouges de mer, et beaucoup d'autres animaux qui sentent très finement leur nourriture par l'odeur qu'elle exhale. Paragraphe 14. Ce qu'on ne sait pas également bien, c'est par quel organe ils sentent. Et l'on pourrait se demander comment ils perçoivent l'odeur, puisque c'est uniquement en respirant que l'odoration est possible, comme on peut l'observer dans tous les animaux qui respirent. Mais aucun de ceux dont nous parlons n'a la respiration, et pourtant ils sentent l'odeur. Admettre qu'ils ont encore quelque autre sens outre les cinq qu'on connaît est chose impossible, car c'est l'odoration qui doit s'appliquer à l'odorable. Or, ces animaux perçoivent l'odorable, mais ce n'est peut-être pas de la même façon que les autres. Dans les animaux qui respirent, le souffle fait lever la partie qui est placée sur la membrane comme une sorte de couvercle. Et voilà pourquoi ils ne sentent pas quand ils n'aspirent pas. Au contraire, dans les animaux qui ne respirent point, cet opercule est tout enlevé. C'est comme pour l'organisation des yeux. Certains animaux ont des paupières qu'ils doivent ouvrir sous peine de ne pas voir, tandis que les animaux à yeux durs n'en ont pas et qu'ainsi, ils n'ont pas besoin de téguments et voient sur le champ du moment qu'il leur est possible de voir. Paragraphe 15. De même, aucun des animaux, autres que l'homme, ne souffre de l'odeur des corps qui sentent mauvais par eux-mêmes, à moins que d'ailleurs ces corps ne leur soient nuisibles. Cependant, ces odeurs les font mourir tout aussi bien. Et de même que souvent les hommes ont la tête appesantie et meurent par la vapeur du charbon, de même aussi, les animaux autres que l'homme sont tués par la force du soufre et des corps bitumineux, et la douleur les fait fuir. D'ailleurs, bien que beaucoup de plantes aient des odeurs repoussantes, ils ne s'inquiètent en rien de la mauvaise odeur pour elles-mêmes, à moins que l'odeur n'agisse sur leur goût et n'importe à leur alimentation. Paragraphe 16. Comme les sens sont en nombre impair et que tout nombre impair a un milieu, il semble que l'odorat tienne aussi une sorte de place moyenne, d'une part entre les sens qui touchent directement leurs objets, je veux dire le toucher et le goût, et de l'autre entre les sens qui ne perçoivent que par un intermédiaire, je veux dire la vue et l'ouïe. Voilà aussi pourquoi l'odeur est à la fois une qualité des aliments, et les aliments appartiennent au même genre que le toucher, et une qualité des milieux nécessaires à la vue et à l'ouïe. En d'autres termes, on odore dans l'air et dans l'eau. Ainsi, l'odorable est quelque chose de commun à ces deux éléments et se retrouve également dans le milieu propre du toucher, dans celui de l'ouïe et dans le diaphane. C'est donc avec quelques raisons qu'on a pu assimiler l'odeur à une sorte de teinture et d'ablution de la sécheresse qui est dans l'humide et dans le fluide. Paragraphe 17. Bornons-nous à ce qui précède sur la question de savoir jusqu'à quel point l'odeur a ou n'a pas d'espèce. Paragraphe 18. Mais il est une opinion soutenue par quelques pythagoriciens qui n'est pas fort exacte. Ils prétendent qu'il y a des animaux qui se nourrissent d'odeurs. D'abord, nous voyons que toute nourriture doit être composée, car les êtres qui se nourrissent ne sont pas simples eux-mêmes. Et voilà pourquoi ils se forment des résidus des aliments, soit dans les êtres eux-mêmes, soit en dehors, comme dans les végétaux. De plus, l'eau toute seule et sans mélange est incapable de nourrir, car il faut toujours que la matière, qui doit être assimilée, ait une sorte de solidité corporelle. À bien plus forte raison, ne peut-on, avec quelque apparence, supposer que l'air puisse prendre un corps. ajoutant que tous les animaux ont un organe qui reçoit la nourriture et d'où le corps la tire pour se l'assimiler. Mais l'organe qui perçoit l'odeur est placé dans la tête et l'odeur entre avec l'exhalaison aériforme, de sorte qu'elle va au lieu même qui sert à respirer. Paragraphe 19. Il est donc évident que l'odorable, en tant qu'odorable, ne contribue en rien à l'alimentation. Mais il n'est pas moins clair qu'il contribue à la santé, comme le prouve la sensation même et comme le prouve aussi ce que nous venons de dire. Par conséquent, le rôle que la saveur joue dans la nourriture pour les êtres quand ils se nourrissent, l'odeur le remplit pour la santé. Paragraphe 20. Bornons-nous aux détails qui précèdent sur chacun des organes des sens. Chapitre 6. Sommaire. Complément de la théorie générale de la sensibilité. Deux questions. Premièrement, nos sensations peuvent-elles aller à l'infini comme la divisibilité des corps eux-mêmes? Il faut distinguer ici l'acte de la puissance. En puissance, nous sentons les parties infiniment petites des corps. En acte, nous ne les sentons que quand elles ont une certaine masse. Deuxièmement, les corps, ou seulement les mouvements qu'ils causent, agissent-ils sur le milieu où ils sont placés? Propagation et mouvement de la lumière suivant Empédocle. Propagation de l'odeur et du son. Tous ces phénomènes peuvent s'expliquer par des mouvements successifs. Exception pour la lumière que nous sentons tout d'un coup. Paragraphe 1. On peut se demander si tout corps étant divisible à l'infini, les impressions sensibles que les corps nous causent se divisent aussi de cette façon. Et je prendrai pour exemple les impressions que nous recevons de la couleur, de la saveur, de l'odeur, du son, du poids, du froid, du chaud, du léger, du dur et du doux. Ou bien, cette division infinie est-elle impossible? D'abord, chacune de ces qualités produit la sensation, et toutes, elles n'ont reçu leur nom divers que parce qu'elles peuvent la produire. Si la force se divise à l'infini, par suite, il faudrait nécessairement que la sensation se divisa aussi de même, et que toute la grandeur fût sensible, puisqu'on ne peut voir qu'un objet est blanc si, en même temps, cet objet n'a quelques dimensions. Paragraphe 2. S'il en était autrement, il pourrait y avoir des corps qui n'auraient ni couleur, ni poids, ni aucune autre qualité de ce genre, qui, par conséquent, ne seraient pas non plus du tout perceptibles pour nous, puisque ce sont là les qualités sensibles. Et ainsi, le sensible serait composé de parties qui échapperaient à nos sens. Mais il est absolument nécessaire qu'un corps soit composé de parties sensibles, car certainement, il ne peut pas l'être de parties mathématiques. Paragraphe 3. Mais comment jugeons-nous et connaissons-nous toutes les choses sensibles? Est-ce par l'intelligence? Mais ce ne sont pas là des choses intelligibles. Et l'intelligence ne peut pas penser les choses du dehors si elles ne sont pas accompagnées de la sensation. Elle les connaît en même temps que l'organe les sent. Paragraphe 5. S'il en est ainsi, et que les corps soient composés de parties insensibles, cela semblerait donner raison à ceux qui admettent des grandeurs indivisibles, car par là le problème serait résolu. Mais tout ceci est impossible, Et c'est ce qu'on a prouvé dans les études sur le mouvement. Paragraphe 5. La solution de ces questions nous permettra en même temps de voir avec évidence pourquoi les sensations spécifiquement causées par la couleur, la saveur, les sens et les autres objets sensibles sont limitées. C'est que dans toutes les choses qui ont des extrêmes, il faut aussi que les points intermédiaires soient limités. Or, ce sont les contraires qui sont les extrêmes. Et dans tout ce qui est perçu par nos sens, il y a toujours des contraires. Par exemple, dans la couleur, c'est le blanc et le noir. Et dans la saveur, le doux et l'amer. Dans tous les autres sens, les contraires sont pareillement les extrêmes. Paragraphe 6. Ainsi donc, tout corps continu peut être divisé en un nombre infini de parties, si les parties qu'enlève la division sont inégales. Mais si ces parties sont égales, le nombre en sera limité. Quant à ce qui n'est pas continu par soi-même, les espèces dans lesquelles il se divise sont limitées. Paragraphe 7. Puis donc qu'il faut reconnaître les qualités des corps pour des espèces, et que la continuité se retrouve aussi toujours en elle, on doit ici distinguer avec soin ce qui est en acte de ce qui n'est qu'en puissance. Et voilà comment la 10 000e partie d'un grain nous échappe, bien que cependant nous la voyons et que notre vue la parcourt. C'est encore ainsi que le son du dièse nous échappe également, bien qu'on entende parfaitement toute la mélodie sans discontinuité. Mais l'intervalle intermédiaire nous est imperceptible et se perd dans les derniers sons. Il en est de même pour les choses infiniment petites qui ressortent aux autres sens. Elles sont visibles en puissance, mais elles ne le sont en acte que quand elles sont isolées. C'est ainsi que la ligne d'un pied est bien en puissance dans la ligne de deux pieds, mais elle n'est en acte que quand elle est seule. Du reste, on comprend sans peine que des quantités excessivement petites, quand elles sont séparées, se perdent facilement dans les corps qui les environnent, comme un grain de parfum se perd dans la mer où on le verse. Cependant, comme cette quantité excessivement petite qui dépasse la sensation n'est point sensible par elle-même, elle ne l'est pas davantage quand elle est séparée, car avec cette ténuité extrême, elle n'est qu'en puissance dans une quantité qu'on peut percevoir plus exactement qu'elle. Il s'ensuit qu'un objet sensible de ce genre ne pourrait être senti en acte même s'il était séparé. Et cependant, il faut dire qu'il est sensible, car il l'est déjà en puissance. Et il le deviendra en acte si on la croit. Paragraphe 8. On voit donc qu'il y a certaines grandeurs, certaines qualités des corps qui nous échappent. Et l'on a dit pourquoi et comment elles sont sensibles et ne le sont pas. Mais lorsqu'elles sont assez nombreuses dans un corps pour être perceptibles en acte, et pour l'être non pas seulement dans l'ensemble du corps lui-même, mais encore quand elles en sont séparées. Il faut nécessairement qu'il y ait des limites aux impressions causées par les couleurs, les saveurs et les sons. Paragraphe 9. On pourrait demander encore si les objets sensibles ou les mouvements partis de ces objets, quelle que soit d'ailleurs la sensation, agissent d'abord lorsqu'ils sont en acte sur le milieu qu'ils traversent, comme paraissent agir l'odeur et le son. Car celui qui est plus près du corps odorant sent d'abord l'odeur et le bruit n'arrive à l'oreille que longtemps après le coup qu'il a produit. En est-il donc de même de l'objet visible et de la lumière, comme le veut Empédocle, quand il prétend que la lumière du soleil traverse d'abord l'espace intermédiaire avant d'arriver à notre vue et sur la Terre. Cette théorie semble du reste fort rationnelle. En effet, tout mobile se meut d'un lieu vers un autre lieu, de telle sorte qu'il faut toujours nécessairement qu'il y ait un certain temps pendant lequel il se meut de l'un à l'autre. Or, le temps est toujours divisible, et ainsi le rayon de la lumière existait avant même qu'il fût aperçu de nous, et alors il marchait encore dans l'espace qu'il devait traverser. Paragraphe 10. Mais en supposant même que la sensation du son que l'on entend se confonde toujours dans un même temps avec la sensation du son qu'on vient d'entendre, ou, d'une manière générale, en supposant que la sensation présente se confonde dans un même temps avec la sensation antérieure, et qu'il n'y ait point ici de génération successive des sensations, mais qu'elles soient sans avoir le temps de devenir, le phénomène existe néanmoins de la façon qu'existe le son qui, après que le coup a été frappé, n'est pas encore parvenu à l'ouïe. D'un autre côté, les altérations qu'éprouve l'articulation des lettres dans le langage le montrent bien aussi. On dirait qu'elles ont à traverser un milieu, car les assistants semble n'avoir pas bien entendu ce qui a été dit, parce que l'air, dans le mouvement qu'il a reçu, a eu le temps de se déformer. Paragraphe 11. En est-il donc ainsi de la couleur et de la lumière? D'abord, ce n'est pas dans une position quelconque que la vue peut voir et la chose être vue. La vue et l'objet ne sont pas, dans le cas, des choses égales. Pour ces dernières, en effet, il n'est pas besoin, ainsi qu'on l'a montré, que l'une et l'autre soient en un lieu précis, car du moment qu'elles sont égales, peu importe qu'elles soient proches ou qu'elles soient éloignées l'une de l'autre. Paragraphe 12. Ou bien, doit-on croire que cette transmission successive a lieu pour le son et pour l'odeur, car c'est ainsi que l'air et l'eau ont beau être continus, le mouvement de tous les deux n'en est pas moins divisible. C'est là ce qui fait qu'il se peut à la fois et que celui qui est le plus proche et celui qui est le plus éloigné entendent et odorent la même chose, et aussi que cela ne se peut pas. Mais ceci, pour quelques esprits, présente la difficulté suivante. On prétend qu'il est impossible qu'une autre personne entende, voie ou odore la même chose dans des conditions qui sont autres, car il n'est pas possible qu'étant réunies, diverses personnes entendent ou odorent comme quand elles sont séparées, puisqu'alors la chose sentie, qui est une, devrait être séparée d'elle-même. Mais ne peut-on pas répondre que diverses personnes percevant le son de la cloche, l'odeur de l'ambre ou la chaleur du feu, en un mot l'action de l'objet qui a causé primitivement le mouvement, cet objet reste identique et un numériquement. Mais que du moment qu'il devient propre à chacun, il est autre numériquement, tout en demeurant spécifiquement le même. Et voilà comment plusieurs personnes voient, odorent et entendent à la fois la même chose. Paragraphe 13. Mais le son et l'odeur ne sont pas des corps. Ce n'est qu'une affection des corps et une certaine espèce de mouvement, car autrement ces phénomènes ne se produiraient pas. D'un autre côté, il est vrai que le son et l'odeur ne peuvent point être non plus sans les corps. Paragraphe 14. Il en est tout autrement de la lumière. La lumière est parce qu'elle est un être particulier. Elle n'est pas un simple mouvement. Mais l'altération ne doit pas se confondre en général avec le mouvement de translation, et elle n'est pas du tout semblable. Les translations doivent en effet, tout d'abord et naturellement, traverser un milieu. Et le son, par exemple, semble bien être le mouvement d'une chose qui se déplace. Mais pour les choses qui ont un mouvement d'altération, il n'en est plus ainsi. Ces choses peuvent s'altérer en masse sans que ce soit une moitié qui commence à changer, comme l'eau qui gèle tout entière d'un seul coup. Mais il est possible encore, si la masse d'eau échauffée ou gelée est considérable, qu'elle s'altère et change de proche en proche, et qu'il y ait une première partie qui change sous l'action du corps qui l'altère, sans que nécessairement la masse s'altère d'un seul coup. Nous pourrions sentir d'ailleurs, si nous étions dans un liquide, le goût d'une saveur comme on sent une odeur, et même de plus loin, longtemps avant de toucher le corps lui-même. Paragraphe 15. Il est donc tout simple que pour les sens qui ont besoin d'un intermédiaire, les sensations éprouvées n'aient pas lieu en même temps, si ce n'est pour la lumière, qui s'explique par la cause qu'on vient de dire. Et cette explication convient aussi à la vision, puisque c'est la lumière qui fait voir. Chapitre 7. Sommaire. Dernière question sur la sensibilité. Peut-on percevoir plusieurs choses à la fois? Position de quelques principes sur la combinaison des mouvements et sur la combinaison des choses en général. Objection. On ne peut pas sentir à la fois, dans un instant indivisible, deux choses qui tombent sous un seul et même sens. À plus forte raison, des choses qui relèvent de sens différents. Théorie fausse sur les accords des sons. Ils arrivent simultanément à l'oreille et il n'y a pas d'intervalle qui soit imperceptible pour nous. Réponse : nous percevons les choses tout entières et rien n'échappe à nos sens. L'âme identique et une perçoit successivement toutes les sensations, mais elle ne perçoit pas l'indivisible. Paragraphe 1. Abordons encore une autre question concernant les sens, celle de savoir si l'on peut ou non sentir deux choses à la fois dans un seul et même moment indivisible. Nous prenons comme démontré que toujours un plus fort mouvement en absorbe un plus faible. Et c'est pour cela que l'on a beau avoir les choses sous les yeux, on ne les voit point quand la pensée est fortement occupé de quelque autre objet, ou qu'on a peur, ou qu'on entend un bruit violent. Admettons aussi l'exactitude de cet autre principe, à savoir que l'on peut toujours beaucoup mieux sentir une chose quand elle est simple que quand elle est mélangée avec d'autres. Par exemple, on goûte mieux du vin pur que du vin trempé, du miel pur que du miel mêlé à d'autres saveurs. On voit mieux la couleur quand elle est unique, et l'on entend mieux la tonique quand elle est seule que quand elle est mêlée à la quinte, parce que ces sensations s'effacent mutuellement. Et c'est ce qui arrive dans les choses qui se réunissent en une seule. Puis donc que le plus grand mouvement absorbe le plus petit, il s'ensuit nécessairement que, quand ils sont simultanés, le plus grand se sent moins que s'il était tout seul, parce que le plus petit, en s'y mêlant, lui enlève, pour cela même, quelque chose de sa force, et parce que les choses, quand elles sont simples, sont toujours plus sensibles. Si donc, tout en étant autre, des mouvements sont égaux, on ne sentira aucun des deux, car l'un pourra également annuler l'autre. Ou du moins, on ne peut certes pas sentir l'un des deux comme s'il était simple. Dans ce cas, où il n'y aura pas du tout de sensation, ou il y en aura une différente, formée des deux mouvements. C'est aussi ce qui paraît arriver pour les choses mélangées dans la chose à laquelle on les mêle. Paragraphe 2. Il y a donc certaines choses qui se combinent en une et certaines autres qui ne se combinent point. Ces dernières sont celles qui tombent sous des sens différents. Ainsi, les choses dont les extrêmes sont des contraires peuvent se combiner. Mais il n'est pas possible que d'une couleur blanche et d'un son aigu, il se forme une unité réelle, si ce n'est indirectement. Et alors cette unité ne ressemble pas du tout à l'accord harmonique qui se forme du grave et de l'aigu. On ne saurait donc non plus percevoir les choses de ce genre en même temps. Car si les mouvements en sont égaux, ils s'annulent mutuellement, parce que des deux, il n'en résulte pas un seul. Et s'ils sont inégaux, le plus fort est le seul qui produise une sensation. Paragraphe 3. Ajoutez que l'âme sentirait plutôt les deux choses par une seule sensation quand elle se rapporte à un seul sens, comme le grave et l'aigu, parce que le mouvement d'un seul sens serait simultané à lui-même plutôt que celui des deux sens différents, comme la vue et l'ouïe. Or, il est impossible de sentir deux choses par une seule sensation, à moins que ces deux choses ne soient mêlées, car le mélange tend toujours à l'unité, et il n'y a qu'une seule sensation pour l'unité. Mais une sensation unique est simultanée à elle-même, et par conséquent, il faut nécessairement que l'on sente à la fois les choses mêlées, parce qu'on les sent par une seule sensation en acte, car c'est un seul sens en acte qui sent l'objet quand il est un numériquement. De même que si l'objet est spécifiquement un, c'est le sens un en puissance qui est le sens. Si donc la sensation en acte est unique, l'âme croira que les choses senties n'en forment qu'une. Et nécessairement, c'est que ces choses se seront combinées. Si au contraire, elles ne sont pas combinées, il y a deux sensations en acte. Mais nécessairement, l'acte doit être unique par rapport à une puissance unique et à un temps indivisible. Car l'exercice et le mouvement d'un seul sens dans un moment donné sont uniques, de même qu'il n'y a qu'une seule puissance. Ainsi donc, on ne saurait sentir deux choses à la fois par un sens unique. Mais si deux choses qui tombent sous un même sens ne peuvent être perçues à la fois du moment qu'elles sont deux, à plus forte raison évidemment, ne peut-on sentir à la fois les choses qui tombent sous des sens différents. Par exemple, la couleur blanche et la saveur douce. C'est qu'en effet, l'âme ne semble reconnaître ce qui est numériquement un que parce qu'elle le sent dans le même temps, tandis que ce qui est un en espèce, elle le reconnaît à la fois et par le sens qu'il perçoit et par la manière dont cet objet agit sur lui. Je veux dire, par exemple, que c'est bien toujours le même sens identique à lui-même qui juge le blanc et le noir, tout différent que le blanc et le noir sont en espèce, comme c'est aussi un même sens qui juge le doux et l'amer. Mais dans un autre des cas, le sens est différent de ce qu'il est, dans l'autre cas, il juge autrement de chacun des contraires. Et c'est ainsi que chacun de ces sens perçoit de la même façon les objets qui se correspondent et que, par exemple, de même que le goût perçoit le doux et que la vue perçoit le blanc, de même aussi la vue voit le noir et le goût sent l'amer. Paragraphe 4. De plus, si les mouvements des contraires sont contraires, et que les contraires ne puissent jamais être en même temps dans un seul et même individu, bien qu'ils puissent tomber sous un même sens, comme le doux et l'amer, il s'ensuit que l'on ne peut pas non plus les sentir tous deux à la fois. Il est tout aussi clair qu'on ne peut pas davantage sentir ainsi les choses qui ne sont pas contraires. Car, parmi les couleurs, les unes se rapportent au noir et les autres au blanc. Et cette remarque s'applique également aux autres sensations. Et par exemple, aux saveurs dont les unes se rapportent au doux et les autres à l'amer. Il n'est pas même possible de sentir à la fois des choses mêlées, parce qu'elles appartiennent dans leur rapport à des opposés. Et, par exemple, la tonique et la quinte, à moins qu'elles ne soient senties comme une seule et même chose, et c'est ainsi seulement qu'il n'y a qu'une notion unique des extrêmes, non pas autrement, car il y aura notion simultanée, tantôt du rapport du grand au petit, ou de l'impair au père, et tantôt du rapport du petit au grand, ou du père à l'impair. Si donc des choses analogues, mais de genres différents, sont encore plus éloignées les unes des autres, et sont plus dissemblables entre elles que les choses qui sont dans un même genre. Par exemple, je veux dire le doux et le blanc, que j'appelle analogues, mais qui sont de genres différents, le doux s'éloignant spécifiquement plus encore du noir que du blanc, il est encore moins possible de sentir simultanément ces dernières choses que celles d'un même genre. Et il s'ensuit que si les choses d'un genre identique ne sont pas perçues à la fois, les autres ne le sont pas davantage. Paragraphe 5. D'autre part, on a prétendu quelquefois, pour les accords des sons entre eux, que les sons n'arrivent pas en même temps à notre oreille, mais qu'ils paraissent seulement y arriver ainsi, et que cette illusion vient de ce que le temps qui sépare chaque son est imperceptible. Cette opinion est-elle juste ou ne l'est-elle pas? Ajoutons qu'on pourrait fort aisément étendre cette explication et dire aussi qu'on croit voir et entendre à la fois une seule et même chose parce que les intervalles du temps qui séparent la vue et l'ouïe nous échappent. Ou bien doit-on dire que cela n'est pas exact et qu'il n'est pas possible qu'il y ait un temps qui soit insensible pour nous et nous échappe et que nous pouvons toujours le percevoir quel qu'il soit. En effet, si lorsqu'on se sent soi-même ou même lorsqu'on sent quelque autre chose dans un temps continu, on ne peut point ignorer sa propre existence ou celle de la chose, et si, dans cette durée continue, il y avait un mouvement, quelque court qu'on le fasse, où l'on fût tout à fait insensible, il est clair aussi que dans cet instant, on ne saurait même pas si l'on existe soi-même, ou si l'on voit quelque objet. Et qu'alors, et tout à la fois, on pourrait dire qu'on ne sent pas et qu'on sent. Paragraphe 6. En outre, il n'y aura plus de temps ou de choses perçues dont on ne puisse dire aussi, ou qu'on n'a senti que dans une partie de ce temps, ou qu'on n'a vu qu'une partie de cette chose, du moment qu'on suppose qu'il y a quelques parcelles du temps ou des choses qui deviennent tout à fait insensibles pour nous à cause de sa petitesse. Admettons que l'on voit la chose entière et qu'on sente le temps lui-même tout entier sans discontinuité, seulement parce qu'on aura senti une partie du temps ou qu'on aura vu une partie de la chose. Et admettons aussi qu'il y ait quelques parcelles insensibles. Retranchons CB, qui est cette parcelle dans laquelle on ne sent pas. Il s'ensuivra qu'il suffit pour sentir le tout d'une partie du temps ou d'une partie de la chose. Par exemple, qu'on voit la terre entière parce qu'on en voit telle partie, et que l'on marche durant l'année entière parce que l'on marche durant une partie de l'année. Mais on ne sent rien en BC. C'est donc parce que l'on sent dans quelques parties de AB que l'on dit qu'on sent le tout et la terre entière. Mais le même raisonnement serait bon pour AC, car c'est toujours dans quelques parties du temps que l'on sent. Et c'est toujours quelques parties de la chose, et l'on ne sent jamais le tout. Ce qu'il faut affirmer, c'est que l'on sent les choses tout entières, mais qu'elles ne paraissent pas toujours tout ce qu'elles sont. C'est ainsi qu'on voit les dimensions du soleil, et de loin, celles d'un objet de quatre coudées, sans qu'elles paraissent aussi grandes qu'elles le sont réellement. Mais parfois, elles nous semblent indivisibles, et l'on ne voit pas l'indivisible. Nous en avons expliqué la cause dans ce qui précède. Concluons donc de là qu'évidemment, il n'y a pas du tout de temps qui soit imperceptible pour nous. Paragraphe 7. Pour revenir à la première question qui avait été soulevée, il s'agit de savoir si l'on peut ou si l'on ne peut pas sentir plusieurs choses à la fois. Quand je dis à la fois, je comprends que les phénomènes se passent l'un par rapport à l'autre dans une seule partie de l'âme et dans un temps indivisible. D'abord, donc, est-il possible de sentir plusieurs choses à la fois en les percevant par une partie de l'âme qui serait différente et qui serait indivisible, de façon qu'elle serait tout entière continue. Mais pour ne parler d'abord que des choses relatives à un seul sens, à la vue par exemple. Si la vue a besoin d'une autre partie pour sentir une autre couleur, ne sera-ce pas donné à ce sens plusieurs parties qui seront identiques en espèce? Car les choses qu'il sent ici sont dans le même genre. On prétend, il est vrai, que les deux yeux n'empêchent pas de voir l'objet unique. Il en peut être de même aussi dans l'âme. À cela, l'on peut répondre que pour les deux yeux, sans doute, ils ne causent qu'une seule perception et qu'il n'y a pour eux qu'un seul et même acte. Mais si dans l'âme, la partie qui est affectée par les deux objets est une. Cette partie sera précisément celle qui sent, tandis que si les sensations sont séparées, ce ne sera plus le même phénomène que pour les yeux. De plus, il s'ensuivrait que les mêmes sensations seraient multiples, ce qui reviendrait à dire que les connaissances données par elles sont différentes, car il n'y a pas d'acte de sensation sans la faculté spéciale à laquelle il se rapporte, pas plus qu'il n'y a de sensation sans cet acte. Paragraphe 8. Mais si l'âme perçoit les sensations de sens différents, dans une partie une et indivisible, évidemment, elle sentira de même aussi les autres sensations, car il était plus facile de percevoir plusieurs de ces dernières à la fois plutôt que celles qui sont de genres différents. Au contraire, si l'âme perçoit la couleur blanche par une partie et la saveur douce par une autre, le résultat de ces sensations est-il un ou n'est-il pas un? Il faut nécessairement que ce résultat soit un, car dans l'âme, la partie qui sent est une aussi. Mais à quelle unité le résultat répond-il ici? Car les choses senties ne forment pas une unité. Il faut donc que dans l'âme, il y ait une unité qui sente tout, ainsi qu'on l'a dit précédemment. Seulement, elle sent un autre genre d'objet par un autre organe. Paragraphe 9. Peut-on donc expliquer ceci en disant que c'est comme indivisible, que la faculté qui sent à la fois le blanc et le doux reste quelque chose d'un en acte, et qu'elle n'est autre en acte que quand elle devient divisible. Ou bien encore, en serait-il pour l'âme, de même qu'il en est pour les choses. Ainsi, une seule et même chose peut, tout en gardant son unité numérique, être blanche et douce, et avoir beaucoup d'autres qualités encore. En effet, si les modifications des choses ne sont pas séparées les unes des autres, et que la manière d'être seulement soit différente pour chacune d'elles, il faut supposer qu'il en est de même pour l'âme, que ce qui perçoit en elle toutes les sensations diverses est numériquement une seule et même chose, et que cependant, cette faculté est autre par sa manière d'être, ici pour les choses de genre différent, et là pour les choses d'espèces différentes. Par conséquent, l'âme perçoit en même temps les choses par une seule et même faculté, seulement le rapport n'est pas le même. Paragraphe 10. Il est donc évident que tout ce qui est perceptible à nos sens a une certaine grandeur et qu'il n'y a pas d'indivisible qui soit perceptible pour nous. En effet, la distance d'où l'on ne peut pas voir une chose est infinie, celle d'où l'on peut la voir est limitée. Même remarque pour l'objet qu'on peut percevoir par l'odorat, pour celui qu'on peut percevoir par l'ouïe, et pour tous les objets que l'on perçoit sans les toucher directement. Ainsi, il y a un point dernier dans la distance d'où on ne voit pas, et un premier d'où l'on voit. Il faut donc nécessairement considérer comme indivisible ce point au-delà duquel il est impossible de sentir l'existence de la chose, et en deçà duquel, au contraire, on doit l'apercevoir. Mais si l'on admet qu'un indivisible peut être perceptible à nos sens, en le plaçant à cette extrémité d'où l'on cesserait de sentir au-delà et où l'on commencerait à sentir en deçà, il en résulterait qu'un objet serait à la fois visible et invisible. Or, c'est ce qui est impossible. Paragraphe 11. On a donc expliqué ce que sont les organes des sens et les objets sensibles, et l'on a montré ce qu'est en commun et en particulier chacun d'eux. Parmi les questions qu'il nous reste à étudier, il faut nous occuper d'abord de la mémoire et du souvenir. Fin du traité de la sensation et des choses sensibles.